Et nous allons le suivre, non pas cette semaine qui vient, mais la semaine d'après, dans cette passion. Nous avons encore une semaine devant nous pour achever, je dirais, cette période, cette grande quarantaine. Cette grande quarantaine qui se termine par ce dimanche d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. La quarantaine n'est pas terminée, mais voilà, par la mémoire de Sainte Marie l'Égyptienne. Je voudrais m'arrêter sur cette figure tout à fait exceptionnelle que l'Église commémore en ce cinquième dimanche. C'est une image, une icône, on pourrait dire, tout à fait exceptionnelle du repentir. Elle exprime, en ce dernier dimanche de carême, le plus pressant appel que l'Église nous adresse avant les jours saints de la Passion et de la Résurrection. Sainte Marie était née en Égypte, dans un village au 4e, 6e siècle, et à l'âge de 12 ans, elle s'échappa de chez ses parents et elle se rendit à Alexandrie, la grande ville, où elle vécut pendant 17 ans dans la plus grande débauche et le plus grand dérèglement. Je passe sur les détails, mais voilà, elle livrait son corps à tout homme sans y être poussée par la misère, mais comme brûlée par le feu d'un désir que rien ne pouvait assouvir. Et un jour, qu'une foule nombreuse se dirigeait vers le port, elle les suivit et s'embarqua avec eux pour Jérusalem. Et pour prix de la traversée, évidemment, elle offrit son corps. Elle arriva à Jérusalem le jour de l'exaltation de la croix et se pressait avec les pèlerins pour vénérer la croix du Seigneur qui était exposée dans l'église de la résurrection. Mais voilà, une force invisible l'empêcha d'y pénétrer. Et elle comprit que c'était l'état d'impureté de sa vie qui l'empêchait de s'approcher de la croix du Seigneur. Alors elle pleura abondamment, et puis elle vit près du porche de l'église une icône de la Mère de Dieu, une icône qui existe toujours d'ailleurs, qu'on peut voir au Mont Athos. Et elle pria la Mère de Dieu de la laisser entrer dans l'église, et elle s'engagea en retour à renoncer au monde et à ses plaisirs. Elle se sentit alors délivrée, parce qu'évidemment cette force, elle était, c'était interne à elle, bien sûr. Elle se sentit délivrée de cette puissance qui la retenait, et elle put entrer dans l'église où elle vénéra avec ferveur la Sainte Croix. Puis, revenue devant l'icône de la Mère de Dieu, elle se déclara prête à suivre le chemin que désormais elle lui indiquerait. Et elle entendit une voix qui lui disait « Si tu passes le Jourdain, tu trouveras le repos. » Et elle accepta, elle se soumit aussitôt à cet ordre. Le lendemain, après avoir communié au Saint-Mystère, dans le monastère qui était là près du fleuve, elle traversa le fleuve et elle vécut alors dans le désert sans rencontrer personne pendant 47 ans. Pendant les 17 premières années qui correspondaient aux 17 années dans lesquelles elle avait vécu à Alexandrie dans la débauche, elle dut affronter les épreuves physiques d'abord, le froid, la chaleur, le manque de nourriture, mais bien plus encore les violents assauts de ses passions. Et elle suppliait la Mère de Dieu de lui venir en aide. Protégée par Dieu, elle parvint à déraciner de son cœur, mais c'était un combat extrêmement dur, hein, faut pas penser que ça va se faire facilement. Elle parvint à déraciner toutes ses passions et elle put convertir le feu du désir charnel qu'il habitait en une flamme d'amour divin qui lui permit d'endurer avec joie l'implacable désert. Après, elle vécut encore 30 ans dans ce désert, mais libérée des passions. Et après tant d'années, un saint moine du nom de Zosime, qui s'était engagé au-delà du Jourdain, lui aussi pour y passer le temps du carême, suivant la règle de son monastère, la rencontra et après lui avoir donné son manteau pour la vêtir, écouta émerveillé le récit de sa vie et de sa conversion. Puis Marie lui fixa rendez-vous l'année suivante, le jeudi saint, sur le bord du Jourdain avec la Sainte Communion. Le jour venu, après avoir attendu quelque temps, Zosime vit Marie apparaître sur l'autre rive du Jourdain et elle traversa le fleuve en marchant sur les eaux. Après avoir communié, elle donna rendez-vous l'année suivante à Zosime au lieu de leur première rencontre. Lorsque l'année fut écoulée, Zosime trouva à l'endroit convenu le corps de la Sainte Marie étendu à terre et auprès d'elle une inscription qui disait « Abba Zosime enterre à cet endroit le corps de l'humble Marie. Je suis décédé le 1er avril, la nuit de la Passion de notre Seigneur, après avoir participé à l'Eucharistie. » Donc l'année précédente. Et Zosime fut étonné de constater que la sainte était décédée seulement quelques heures après qu'il lui eut donné la Sainte Communion à une distance de plus de 20 jours de marche. L'histoire raconte encore qu'un lion vint opportunément aider le vieil homme à creuser la tombe. C'est Zosime qui fit connaître cette histoire, l'histoire de Sainte Marie l'Égyptienne, que Saint Sophrone, patriarche de Jérusalem à cette époque, mis plus tard par écrit. Alors, il y a dans cette vie trois phases nettement distinctes sur lesquelles je voudrais m'arrêter quelques instants. Il y a la première, la vie de péché, on pourrait dire, la vie libre, puis le temps du repentir et enfin la vie en Dieu. Donc à l'âge de 12 ans, elle quitte volontairement ses parents et se rend à Alexandrie. 12 ans, c'est l'âge où l'enfant change de statut, il entre dans l'adolescence. Ça nous renvoie à l'épisode évangélique où Jésus, à 12 ans précisément, laisse s'éloigner ses parents sur le chemin de Nazareth, tandis qu'il demeure dans le temple de Jérusalem, assis au milieu des docteurs, affirmant devoir être aux affaires de son père. Marie l'Égyptienne, au contraire, renie toute paternité divine et entre dans une rébellion profonde. Elle croit gagner sa liberté, mais dans son effort illusoire et ruineux, elle n'a acquis qu'une pernicieuse autonomie. On comprend que le péché de Marie l'Égyptienne n'est pas d'abord la violation de l'ordre moral ou social, mais bien la rupture de communion avec Dieu qui la livre à elle-même, abandonnée à ses propres forces. Mais elle n'en demeure pas moins une créature spirituelle destinée à l'adoration, mais la perversité de son intention l'amène à s'adorer elle-même. Désormais, elle rend un culte à sa propre chair et par elle, elle recherche l'ivresse du plaisir comme substitut à la béatitude promise aux serviteurs de Dieu. Se croyant libre, elle subit en fait l'esclavage des sens et de la passion qui se font en elle de plus en plus exigeants. Sous prétexte de l'exercice de sa liberté, elle est dépossédée d'elle-même. Elle expérimente l'enfer et s'épuise dans une course effrénée contre la frustration que cette course elle-même engendre. Combien on en voit de nos jours des jeunes qui disent « Je suis libre, je fais ce que je veux » et qui partent sur des chemins de traverse. La conversion soudaine de Marie l'Égyptienne a pour cause première la volonté divine. Dieu agit avec elle comme avec nous, avec une patience qui est à la fois pitié, fidélité, tendresse. Mais la tendresse divine n'a rien d'un sentiment doucereux. Vous voyez comment Dieu agit. Dieu utilise le péché de l'homme pour que l'homme en fasse son profit. Dieu guérit du péché en le laissant agir jusqu'à ce que l'homme découvre par lui-même le tort qu'il se fait en ne suivant que son désir. C'est ainsi que Marie, par l'impossibilité d'entrer dans l'Église pour vénérer la croix, est mise face à son excommunication de fait, pourrait-on dire. Alors elle est découragée, elle est effondrée. Elle est en fait une énigme pour elle-même, jusqu'au moment où elle dit « Le Verbe Sauveur toucha les yeux de mon cœur, me montrant que c'était la fange de mes actions qui me fermait l'entrée. » L'action bouleversante du Sauveur qui envoie l'Esprit Saint donne à Marie, dans l'impasse de sa solitude, les larmes du repentir. À travers ces larmes qui lavent son regard, elle peut discerner dans l'icône de la Mère de Dieu le signe d'une présence compatissante. Elle peut alors confesser sa faute à la toute pure et conclure une alliance où elle offre sa conversion contre l'assurance d'être secourue. La montée vers la lumière se poursuit. Les portes de l'Église, lieu du salut, lui sont ouvertes et en vénérant la croix du Fils, elle peut comprendre comment le Père attend le repentir des pécheurs. Elle contemple Jésus qu'elle persécute et comprend le mystère de l'incarnation divine. Marie communie de tout son être de pécheresse pardonnée à l'amour qui la sauve. La vérité de la conversion de Sainte Marie l'Égyptienne se reconnaît à son obéissance exemplaire par laquelle elle sacrifie résolument sa propre volonté sur l'autel de la foi. Donc parvenue au bord du Jourdain, Marie inaugure son existence nouvelle par un acte liturgique par lequel elle célèbre cette alliance nouvelle en communiant au Saint-Mystère en allant au monastère, là qui est là en bas, puis elle s'avance hardiment dans le feu du désert. Et là, elle expérimente la pauvreté, le dénuement, qui lui rappelle sans cesse sa fragilité, sa dépendance. Elle n'a plus d'espérance qu'en Dieu seul. Marie est semblable à Israël au désert. La purification de son cœur ne peut s'accomplir que dans le combat contre les suggestions diaboliques. C'est pour cette lutte qu'elle a été conduite au-delà du Jourdain, dans ces contrées sauvages, hostiles. Il faut que soient anéanties les puissances ténébreuses qui l'habitent encore, bien que cachées, terrées, on peut dire, depuis sa conversion. Mais ce ne sera pas sa vigueur qui vont les terrasser, mais plutôt sa faiblesse. Elle sera vainqueur en s'appuyant sur le Christ grâce à l'intercession de la Mère de Dieu vers laquelle elle se tourne dès qu'elle est tourmentée par les tentations. Elle offre ainsi à la grâce d'en haut qui est tout autant action du Christ sauveur que don de l'Esprit illuminateur qui purifie de toute souillure. Le temps passé au désert, dans cette lutte spirituelle, se compte en années, je l'ai dit tout à l'heure, 17 ans. 17 ans, une durée égale à celle où elle a vécu dans la débauche. Marie l'Égyptienne entre alors dans la troisième étape de sa vie spirituelle. Purifiée par la solitude, la nudité, les dangers encourus, elle accepte de ne devoir son existence qu'à une grâce dont elle se sait indigne. Dans cette attitude apparemment folle qui consiste à se renier aussi totalement, Marie l'Égyptienne trouve la vraie vie. Elle est tout entière revêtue de l'esprit. Elle est introduite dans la connaissance des Écritures sans qu'elle ait jamais appris les lettres. Elle connaît le nom et la fonction de Zosime sans qu'il l'ait allé lui révéler. Cependant, elle reste affamée, assoiffée de la communion au corps et au sang de son Seigneur et Sauveur. Et malgré la permanence des prévenances divines, elle demeure consciente de sa faiblesse. Elle sait que tout reste toujours suspendu au don de sa liberté. Après la mort de la sainte et jusqu'à nos jours, beaucoup trouveront dans l'histoire de sa vie telle que nous l'a transmis Abba Zosime, puis le patriarche Sophron, mieux qu'un exemple, une assistance, une aide, un renouvellement de notre courage dans l'élan vers Dieu. C'est pourquoi l'image de cette sainte nous est donnée à la fin, au dernier dimanche de Carême. Il nous remplit d'étonnement, d'émotions de toutes sortes. Alors, je dirais, gardons dans nos cœurs l'image de cette merveilleuse sainte pour les derniers jours de notre carême.